Jenny Holzer, Amber Tower, 2000.
Le hall est vaste et lumineux. Dans cet espace de rencontre, les bruits s'entremêlent et les voix résonnent. À votre gauche se dresse une grande colonne métallique rectangulaire. L'Amber Tower from Avignon de Jenny Holzer. Elle semble transpercer l'espace. Elle traverse la pièce de haut en bas. Elle naît à vos pieds et disparaît dans les moulures du plafond. Il est impossible de l'ignorer, mais possible de ne pas s'y attarder. Du haut de ses 9,33 m, elle attire l'œil et vous guide à travers les étages. L'escalier entoure l'œuvre qui prend place en son centre. L'ancien hôtel particulier embrasse la modernité. L'espace public est pénétré par l'intime. Le froid du métal rencontre la chaleur de la pierre dorée. Imprégnez-vous de ce parfum ambré aux senteurs d'acier. Une composition faite d'opposition. Autant de dualités dont l'artiste a fait sa spécialité. Des LED couleur ambre recouvrent deux faces opposées de la sculpture. Elles s'allument, formant des lettres. Les lettres forment des mots. Les mots, des phrases. Ces phrases défilent de bas en haut à la manière d'un panneau publicitaire. D'un côté, elles sont en français. De l'autre, en anglais. Les phrases sont d'une simplicité complexe. Parfois, elles sont écrites en gras. Parfois, elles clignotent. Parfois, elles se superposent telles des pensées désordonnées. La lecture est troublante, fragmentée. L'œuvre hypnotise autant qu'elle heurte. Jenny Holzer expose sa vulnérabilité, livre son intimité. Les mots sont bruts, percutants. Émotions distancées, flux continu de paroles. Deux voix semblent se répondre sans jamais se rencontrer. Celle de l'homme qui parle de la femme comme d'un objet.
Je la referme de mes morsures.
Celle de la femme qui se sent possédée.
Tu me prends pour quelque chose qui est en toi.
Les mots évoquent la mort.
Enfer.
Sacrifice.
La violence.
Douleur.
Blood.
La confrontation.
Abus.
Submission.
Les corps.
Bouche.
Fingers.
La plupart des phrases sont cliniques, mécaniques, désincarnées. Et pourtant profondément charnel, sensuel.
Only sensations exist.
Une douceur qui apaise la rancœur.
Je veux m'étendre près d'elle.
D'autres phrases sont simplement factuelles.
No one ever knows what to do.
Universelles.
Vous êtes passé, présent et futur.
Des dictons qui invitent à la réflexion.
Un simple événement peut avoir une infinité d'interprétations.
Le visiteur est seul face aux mots. Il doit interpréter, combler les silences. Ce qui est habituellement tu est ici exposé, sans filtre, parfois de manière crue.
Sa tête explose dans le feu.
La femme est objet de désir, convoitée, utilisée, puis mère.
Un homme ne veut pas savoir ce que c'est d'être mère.
L'artiste semble dénoncer cette vision figée de la femme. Cette existence définie, non pas par ce qu'elle est, mais par ce qu'elle représente pour l'homme.
Claire Fontaine, Étranger partout, 2020. Lorsque vous êtes dans le hall du musée, commencez votre visite en montant les escaliers. Vous trouvez au cours de votre ascension l'œuvre de Laurence Wiener, Ruptured, et le sommet de l'œuvre Amber Tower from Avignon, de Jenny Holzer. Rendez-vous au premier étage pour découvrir l'œuvre de Claire Fontaine, Foreigner Everywhere, Étranger partout, qui a donné son nom à la 60e édition de la Biennale de Venise. Cette œuvre a été réalisée par le collectif Claire Fontaine. Ce nom fait référence à la célèbre marque de cahiers que nous pouvions retrouver sur nos tables d'écoliers. Mais il rend également hommage à l'œuvre Fontaine de Marcel Duchamp. Sur un mur de pierre calcaire au toucher rugueux, une phrase lumineuse capte immédiatement le regard. Un néon de couleur bleu clair rappelant la mer. Deux phrases s'entrelacent, l'une écrite en arabe et l'autre en hébreu, clignotant en alternance, l'une faisant place à l'autre. Étranger partout, semble flotter dans l'espace, vibrant d'une présence hypnotique. Cette installation lumineuse, tenue par une structure métallique volontairement apparente, rappelle les enseignes commerciales. Mais ici, elle n'attire pas pour vendre, mais pour transmettre un message, à la fois simple et puissant. Le néon électrique clignote comme un signal d'urgence, un cri muet projeté dans l'espace. Devant cette œuvre, vous vous trouvez confronté à votre propre perception de l'appartenance. Que signifie être chez soi ? Peut-on véritablement être accepté quelque part ? Une subtile odeur de jasmin semble flotter autour de l'installation, presque imperceptible au premier abord. Faisant écho à l'imaginaire oriental, à ses nuits tièdes et à ses jardins parfumés. Prenez possession de cette odeur. Essayez de vous plonger dans ce monde imprégné de richesses culturelles. Ces mots, étrangers partout, réveillent-ils chez vous un sentiment d'inquiétude, d'interrogation ou de solitude ? Vous permettent-ils de voir un message d'espoir ? Dans le silence du palier, étrangers partout ne crient pas, mais ils s'imposent. Ils s'adressent à tous sans distinction. Sol Lewitt, Wall Drawing 538, 1987.
Vous pénétrez maintenant dans une salle à part où le parcours lumineux et blanc du musée s'efface, laissant place à une nouvelle ambiance, plus sombre. Surnommée la cathédrale par sa hauteur, cet espace cubique procure une impression de grandeur. Vous avez sans doute remarqué le calme et l'écho qui règnent dans cet espace vide, propice à la méditation et à la contemplation. Pour enrichir cette expérience, nous vous invitons à vous laisser envelopper par un parfum subtil évoquant l'encens mystique des cathédrales italiennes, créant ainsi une atmosphère unique et sacrée. L'œuvre Wall Drawing de Sol Lewitt occupe les quatre murs qui vous entourent. De vastes formes géométriques colorées se déploient comme des présences silencieuses. Ces formes évoquent des pièces de puzzle, des reflets de vitraux ou encore un pliage d'origami. Elles sont nettes, délimitées et ne se superposent pas. Quant aux couleurs, terreuses et profondes, elles varient. Vert olive, aubergine, ocre, vert sapin, orange abricot. Bien que la fresque soit sans relief, une texture veloutée et mousseuse semble émaner de ces formes. Chacune d'elles, minutieusement tamponnée, suit à la lettre les instructions rigoureuses de Sol Lewitt. Ce geste précis imprègne l'œuvre d'une étrange fluidité, défiant la rigidité apparente des lignes et des couleurs. Ainsi, au-delà de la simple application technique, l'œuvre de Sol Lewitt devient un processus vivant. Pour lui, l'idée prime sur la réalisation. L'œuvre naît d'un concept qu'il transmet sous forme de diagramme, une carte mentale qui guide, mais ne dicte pas. Sur ce document, il présente un schéma avec des couleurs et des formes. Tout comme une partition permet une interprétation qui varie selon l'exécution, l'œuvre de Lewitt laisse également une part d'interprétation à ceux qui l'observent. C'est cette approche novatrice qui définit son travail et le place parmi les figures les plus influentes de l'art conceptuel. La création de ses œuvres repose sur une logique rigoureuse et une démarche systématique. Ici, devant le Wall Drawing 538, vous êtes invité à entrer dans l'univers ordonné de Lewitt. Plus loin, au fil de votre visite, un autre Wall Drawing vous attend. Une nouvelle étape dans cette exploration visuelle et mentale.
Neil Toroni. Empreinte de pinceau numéro 50, répétée à intervalles réguliers, 30 cm. 1990.
Vous êtes face à l'œuvre. Votre visage est baigné de lumière. Dans votre dos se trouve Wall Drawing 1193, œuvre de l'artiste Sol Lewitt. Elle est imposante, tant par sa taille que par ses couleurs vives qui attirent toute l'attention. Un grand arc-en-ciel de couleurs, fresque qui s'impose sur l'ensemble du mur. En réponse, l'œuvre de Neil Toroni, face à vous, est discrète et douce, méditative et apaisante. Quatre grandes fenêtres voûtées sont face à vous et donnent sur la cour provençale. Votre regard se pose sur la première et la troisième fenêtre. Se trouvent intégrées ici deux œuvres au format carré. Elles sont délimitées par un morceau de scotch papier qui fait office de cadre à même le verre. Les fenêtres 2 et 4 sont vides. Il y a une alternance entre fenêtres occupées et fenêtres vides, entre mouvement et silence. L'artiste applique des empreintes de pinceau bleu de manière régulière, précise et répétée. Elles ont toutes la même taille, 50 cm, et sont disposées à intervalles réguliers, 30 cm, avec le même espacement, peinte par le même pinceau, avec la même intensité. La pression du pinceau sur le vert est la plus forte au haut de chaque empreinte, le bleu majorel perdant en opacité au fil de la trace. Ce geste mécanique, l'artiste la reproduit encore et encore dans de multiples endroits, en variant seulement la couleur et le support. Vous pourrez trouver des empreintes similaires ailleurs dans le musée, en rouge et vert, peintes sur l'un des murs. Ici, il y a 14 empreintes par carré, agencées en 4 rangées. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Un travail minutieux qui caractérise l'œuvre de Toroni, qui utilise le même pinceau, le numéro 50, pour toutes ses œuvres et fonde son travail sur ce geste obsessionnel et répété. Empreinte, vide. Empreinte, vide. Neil Toroni exprime
la forme plus ou moins carrée obtenue est donnée par la partie poilue du pinceau, imprégnée de couleurs, qui, appliquée sur une surface, y laisse son empreinte.
Ces empreintes régulières sont comme une respiration, ponctuées par des temps d'inspiration, d'expiration, de vide et de silence, de bleu et de transparence. Un vide qui n'est jamais vraiment vide, puisqu'il est lumineux. La cour, le ciel et les arbres font office de fond à cette toile. Lorsque vous vous approchez, les traces de pinceau laissent libre cours à l'interprétation. Un jour d'été, vous y verrez peut-être les rayons du soleil qui percent au travers des empreintes par transparence. Mais un jour de pluie, peut-être y verrez-vous alors une forêt humide, boisée, qui se dessine dans les empreintes des poils de pinceau. L'odeur de cette forêt pourra alors vous envelopper dans votre contemplation. Nous vous invitons à la découvrir en vous tournant vers le parfum qui y correspond.
Chaque empreinte est unique, différente de la voisine. Elle ne préexiste pas comme une forme idéale à reproduire.
Kunjunga, le chemin qui nous mène quelque part. 2000.
Vous êtes désormais dans une salle de taille domestique qui faisait autrefois office de petit salon. Une grande fenêtre rectangulaire laisse entrer la lumière à travers un rideau blanc, peu opaque. Au-dessus de vous, presque inaperçue, une œuvre occupe pourtant l'ensemble du plafond. Elle a été réalisée par l'artiste coréenne Koo Young-ha à l'occasion de l'ouverture de la collection Lambert en 2000. Créée in situ, avec de l'acrylique, du correcteur liquide et graphite, elle se compose de cercles réguliers et texturés de différentes tailles qui se rencontrent, s'unissent et se séparent. La lumière naturelle, filtrée par le rideau, se reflète sur l'œuvre et révèle ou dissimule les cercles selon votre position dans la salle. Ils sont plus ou moins visibles en raison de leurs reflets, variant entre le doré et l'argenté. Il est possible de superposer ces bulles fines d'acrylique à certains souvenirs comme l'océan ou les journées à la mer. Ces formes circulaires, comme des bulles suspendues dans l'air, peuvent nous évoquer le souvenir d'un geste quotidien, le contact agréable du savon et de l'eau sur notre peau. À présent, laissez-vous porter par ce parfum subtil qui évoque l'odeur de la lessive, du linge frais. Si vous y prêtez attention, vous remarquerez qu'il s'efface, se dissipe, à la manière d'une odeur qui serait emportée par le vent, tel un souvenir fugace d'un instant éphémère. Koo Young-ha a par ailleurs déjà imaginé un parfum intitulé « Before the Rain » qui capture cet instant temporaire juste avant la pluie. Là-haut, au plafond, l'œuvre nous convie à lever la tête, à élever notre regard et peut-être aussi notre esprit, des gestes qui peuvent évoquer une dimension spirituelle. Ces cercles, liés les uns aux autres, et dont le tracé continue indéfiniment en dehors de l'espace visible au plafond, peuvent faire aussi penser à un voyage, à un chemin spirituel. L'œuvre, intitulée « Le chemin qui nous mène quelque part », semble nous inviter à une forme d'introspection. Chacun est libre d'associer ce chemin à ce qu'il souhaite. Pour certains, cela peut faire penser à un souvenir, à un chemin qui nous ramène vers le passé. D'autres y voient une représentation de l'humanité. Les cercles sont tous différents, mais liés, malgré tout. Nos corps fonctionnent en effet tous de la même manière, mais nous possédons aussi nos singularités, qui nous différencient et nous rendent uniques.